RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Oh, mêliez-vous de ce qui vous regarde. Bon, de temps en temps, vous pouvez quand même vous mêler de ce qui vous regarde. J'accepterai quand même. Bon. Si c'est pour me faire des remarques, je ne suis pas d'accord. Mais si c'est pour m'applaudir, me dire bravo, là, vous pouvez vous en mêler. Hein ? Oui. Mais attention, pas vous en mêler les pinceaux. Hein ? Bon. Vous en mêler. Voilà. Et EN, à part de mêler. Hein ? Bon. Là-dessus, on va commencer par un artiste. Pardon, excusez-moi, oui, j'en suis. Tout ébahi. Un poète fantastique qui nous vient d'Haïti. Il s'appelle René Lepestre, figurez-vous. Et il adresse à Paul Éluard, ce qui prouve qu'il aimait Paul Éluard, grand poète également. Peut-être pas plus grand que moi au niveau de la taille, hein, mais au niveau du succès, oui. Le Rossignol de Paris, ouais. Le Rossignol de Paris est mort. Nous l'aimions comme un frère, comme on a aimé la santé, la vie, la beauté, les voyages, ou comme on aime la justice. La musique, le silence, le pain, sa lumière libérait les fleuves, son chant libérait l'amour, son amour réinventait le feu, son feu nous rend meilleurs. Depuis sa mort, 10 fois la neige a crié son chagrin sur les feuilles et les paroles des nouveaux amants. Il était le directeur de la neige. Il régnait sur le sel de la mer. Sa sagesse veillait sur nos folies. Dans l'épaisseur de nos murs, sa joie comme sa douleur ouvre des portes et des routes glorieuses. Il chantait les amants de tous les pays, les amants vivants, morts et désunis. Pour Diotina, pour Annabelle Lee, pour Juliette, pour Mariana, pour la petite reine Karumama, pour mon dernier amour malheureux, pour donner à l'amour, à la vérité, à la liberté, à l'espoir, à la bonté, une perpétuelle enfance. C'est pas beau ça, hein ? Oh, j'aurais voulu l'écrire, tellement c'est beau. Bon. Oh, mais je vais le faire, hein ? Ah ouais ? Il suffit de changer les paroles. C'est facile, hein ? Je vous ferai voir un jour, je vous ferai écouter un jour, hein, comment on fait. Hein. D'accord ? Bon, eh bien on va passer d'un grand à encore plus grand, figurez-vous. Ouais, ouais. Je vais vous lire le poème, je vous dirai après qui c'est. Hein. D'accord ? En tous les cas, il fut écrit le 27 juin 1871. C'est déjà un indice. Hein. Mais si vous gagnez, vous n'espérez pas avoir un lot, hein. C'est gratos, hein, ça, c'est vous. Vous dites oui, c'est machin, bon, bah, écoutez, oui, c'était machin, mais c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Bon, sur une barricade, ouais, on les compte. Sur une barricade, au milieu des pavés, souillés d'un sang coupable et d'un sang pur lavé, un enfant de 12 ans est pris avec des hommes. Es-tu de cela, toi ? Hein ? L'enfant dit, nous en sommes. C'est bon, dit l'officier, on va te fusiller. Attends ton tour, l'enfant voit des éclairs briller et tous ses compagnons tomber sous la muraille. Il dit à l'officier, permettez-moi que j'aille rapporter cette montre à ma mère chez nous. Tu veux t'enfuir ? Mais je vais revenir. Les voyous ont peur. Où loges-tu ? Là, près de la fontaine. Et je vais revenir, monsieur le capitaine. Alors, va-t'en, drôle. L'enfant s'en va. Piège grossier, et les soldats riaient avec leurs officiers, et les mourants mêlaient à ce rire leur râle. Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle, brusquement réapparut, fier comme Valia. Non, viens là. Bon. Vint s'adosser au mur et leur dit, me voilà ! La mort stupide eut honte, et l'officier fit grâce. Alors, j'attends vos réponses. Jaco, ça y est, t'as trouvé ? Oui, c'est ça, Jaco, c'est Victor Hugo. Oui. Ah, c'est bien ça. Au moins, t'as retenu ma leçon qu'il fallait lire du Victor Hugo, hein ? Et on se sent mieux après quand on a lu du Victor Hugo, hein ? Même si c'est des. Bon, c'est des trucs tristes, bien sûr, mais il n'a pas fait que des trucs tristes, Victor Hugo, autant. Bon, il n'a pas fait, par exemple, il n'a pas raconté ça de mine noce, non. Bon. a eu pas mal de filles. Hein. Ah oui, il en a eu pas mal. Donc le pauvre, il en a perdu une, il s'est noyé. Avec son beau-fils et avec le père de son beau-fils. Oh, c'était triste. Triste à voir. Oh là là, moi je me souviens, j'étais sur le bord de la rivière, hein, quand j'étais arrivé. Hein. Oh, et on pouvait rien faire. Il y avait trop de courant. On aurait été emporté avec le courant si on avait voulu les sauver. Hein. Et puis la barque, elle a coulé. Ben oui, elle a coulé aussi, la barque. Ce qui fait que n'y a pas eu d'héritage, hein, parce que c'était la barque, l'héritage. Ouais. Mais non. Bon, les chassés, c'est la déconnaison à Méliès, hein. Vous en doutez, hein, je pense que vous en doutez. Eh bien, pour la peine, on va écouter un petit morceau de musique. Ça s'appelle « Rag Boy Mine One ». Oh, je sais.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. So Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Oh, que c'était beau. Et Jaco, t'as aimé? Non? Oh bah ouais, je sais que tu préfères Edith Piaf, toi, et Denis Roussos, ouais, d'accord, mais bon, quand même, pour changer un peu. Et n'oublie pas qu'on a des jeunes auditeurs qui aiment ça, hein, bon. Et puis des mecs de mon âge qui ont connu cette époque, hein, bah oui. Et puis même les jeunes, maintenant, ils aiment aussi, hein. Ils aiment un peu le rétro, parce que c'est du beau rétro, ça, tu vois. C'est du rétroviseur. Allez, tiens, je vais vous lire un de mes poèmes, quand même. Oh, il est vieux, hein, il est de 2003, vous rendez compte? Oh. Le 9 septembre 2003, à 22h15, exactement. Pléonasme. Pléonasme, vous savez ce que ça veut dire, un pléonasme, hein? Un jeune pléonasme, plein d'entrée et de verve, marchait à côté d'un trottoir. Donc, sur la chaussée, bah oui. Hein. la marée de l'autre côté montait le long du quai. Soudain, par équinoxe et inadvertance, la marée fut sur la chaussée. Est-ce répréhensible de marcher à côté de la marée, à cause de la marée sur la chaussée ? Et du coup, la marée chaussée, cachée au bord du trottoir, observait ce jeune pléonasme qui tentait de rester au sec. Oui, la marée chaussée d'une eau de mer prenait son bain sur terre. L'autre marée chaussée se marrait doucement malgré les pieds de pléonasme qui se les trempaient des chaussées dans la marée. Le trottoir, enfin débarrassé du pléonasme, reprit son identité, en faisant son bitume fleurir pour ceux qui voulaient bien le croire. La chaussée, enfin décidée de se marier avec le pléonasme, cueillait des fleurs de bitume des mille gouttes d'eau, qui avaient semé en l'an déjà vieux, puisque le trottoir cherchait ses pavés du côté du chat noir. Alors Émile Goudot, c'était le président du club des hydropathes en 1985 à Paris. 1985, c'était moi qui étais le président. Hein. Enfin, c'est toujours moi le président, en fait. Hein. Ça fait 24 ans que je suis président de ce club, on écoute. Et autant un président, on le vire au bout de 7 ans, on me garde. Moi. Enfin, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit que la Maison-Blanche va changer de vocation. Et oui, la Maison-Blanche, ça va devenir un EHPAD, figurez-vous. Ouais, parce que John Banden, il a l'âge de rentrer dans un EHPAD. Mais ils ne veulent pas le virer de la Maison-Blanche. Donc, la Maison-Blanche va devenir un EHPAD. Voilà. Hein. Oh, c'est bien pour lui. Il va avoir des petites infirmières qui vont lui torcher le cul. Oh, c'est génial. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Hein. Bon. Allez, tiens, Guigui Bouzoun, il y a longtemps que je ne vous ai pas embêté avec lui, hein, Guigui Bouzoun. Alors, il a fait des poèmes aussi, enfin, des histoires un peu. Alors, il a écrit sur la mort de Jeanne d'Arc, figurez-vous, Guigui Bouzoun. C'est incroyable. Hein. Ben, moi, je vais vous lire s'il a écrit. Hein. C'est chouette, en plus. Hein. Enfin, c'est chouette. On ne peut pas dire que la mort de Jeanne d'Arc, c'est chouette quand même. Hein. Bon. Ça brûle un peu, oui, mais... Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur le fond de ma pensée, qui illustre imparfaitement la petite fable très anglophobe qui va suivre. Je n'ai rien contre les Britanniques, bien au contraire. D'ailleurs, ma voisine et mes clés sont anglaises. Et j'aime bien quand les amants du 15 de France donnent les marrons aux British. Ben, ça arrive souvent, ça. Pratiquement tous les ans, hein, parce qu'il y a le... Comment ils appellent ça, le tournoi là, de destination hein. Simplement, s'agit-il de préciser un point de notre histoire de France qui s'est, il faut bien avoir le courage de le dire, un peu trop souvent croisé avec celle de l'Angleterre. Voici donc l'exacte vérité sur la mort de Jeanne d'Arc, version tout à fait inédite. L'affreux Jojo qui officiait à Rouen, oui, parce que c'est à Rouen, hein, moi j'ai été voir la place, il y avait encore le pavé qui était noir à l'endroit où ils avaient fait le feu, ouais. Enfin, l'endroit où ils l'ont brûlé, qu'ils ont fait le bûcher. Hein. Ils n'ont pas effacé, même l'eau n'a pas effacé les traces noires sur les pavés. C'est les pavés grossiers, c'est les gros pavés. Hein. Un peu comme le pavé d'enfer du Nord. Hein. Alors, un Anglais, comme chacun sait, était un joli gougnafier. Songez qu'avant même la complète extinction du bûcher, il eut l'audace de sortir une bouteille de whisky de derrière les fagots, sourd aux appels désespérés de la pucelle qui murmurait avec flamme « Cessez le feu, cessez le feu !» L'affreux Jojo vida la fillette cul sec. Parce que oui, ça s'appelait une fillette, hein, la petite bouteille. Hein. Ben oui. Oui, monsieur. Il ne trouva rien de distingué à ajouter en conclusion que « Vive la cuite !» Moi, ça m'a tellement écœuré que j'ai rendu tout mon 4 heures. Voilà. Hein. Alors ça, c'est la vraie version, hein. Je peux le certifier, parce que j'étais à Rouen, voir le bûcher. Hein, ouais. Mais c'est bien. Enfin, c'est bien, bon. Pas pour Jeanne d'Arc, bon. Vous vous rendez compte, si on avait une Jeanne d'Arc aujourd'hui, la France serait libérée. Hein, vous vous rendez compte hein. Ben, on n'a pas de chance. On a une certaine qui s'appelle Le Pen, je crois, c'est ça. Donc c'est pas beau, c'est pas mieux. Hein. Alors... Tiens, je vais continuer avec un de mes poèmes, après tout. Alors, c'est mon 4e tome de Fleurs de femme. Le dernier pour l'instant. Ça s'appelle Mariage en gants blancs. et ce fut écrit le lundi 25 mars 2002 à 18h30. Je venais de me marier avec un livre en enfilant des gants blancs. En m'approchant de lui, l'odeur de l'encre noircit mon âme par nostalgie de ne plus pouvoir s'imprimer d'amour lu. Oui, j'étais imprimeur, moi, quand j'étais gamin. Ouais. Les pages, comme les bras d'une presse, m'envahissaient. Ce caractère fragile se lisait à l'envers sans baisser les yeux. Oui, vous savez, quand c'est en typographie, le caractère est à l'envers pour que, quand on l'imprime, le texte soit à l'endroit sur le papier. Hein, voilà. C'est plus comme ça maintenant. Maintenant, c'est du direct. Paf, 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 hein. Mais c'est bien aussi, bon. Et le papier se servait de mes sentiments pour s'en prendre à ma main. L'encre se disait si sympathique en noircissant mon cœur par ses écrits de douleur que je pleurais. Et pourtant, chaque livre raconte son histoire sans le vouloir. Sauf quand l'auteur s'est dompté les mots. Je cherchais la page qui devait me faire le plus mal. Son texte m'apprendrait à lire entre les coups et les injures qu'une femme aurait tissées au travers du filigrane du papier. J'irai chez le docteur des phrases malades pour prendre ma part d'amertume en pastilles. Et chaque nuit, j'ouvrirai une page de miel pour en adoucir la lecture et en comprendre les espaces entre les lignes de la main. Le seul moment où je pourrais encore lire sans me faire mal. Parfois, la lecture est longue, mais si belle quand l'encre pourpre coule d'elle-même. Même, hein. Ouais, pas même, la même. Elle-même, voilà. Hein. Et alors, j'ai une petite anecdote. Bon, qui est vrai en plus, mais qui a un rapport quand même avec ce que j'ai écrit là, c'est que quand j'étais imprimeur, c'était des machines en une seule couleur. C'est-à-dire que pour faire de la quadrichromie, c'est-à-dire faire des photos en couleur, il fallait faire quatre passages. On commençait par le rouge, le jaune, le bleu et le noir. Et quand on faisait du rouge, de l'encre rouge, figurez-vous que ma femme, quand je rentrais le soir, elle disait « tu sens l'imprimerie ». Et c'était seulement quand c'était l'encre rouge. L'encre noire ne disait jamais ça, l'encre jaune non plus, l'encre bleue. Et ça venait d'un pigment qu'il y avait dans l'encre rouge qui faisait que ça avait une odeur très persistante, vous voyez. Et que même si on prenait une douche ou se lavait les mains et tout, comme changer de vêtements, bien sûr, on avait des bleus de travail, eh bien, on ramenait quand même l'odeur à la maison. Vous vous rendez compte? Heureusement que ce n'était pas l'odeur d'une femme. Là, je me serais fait engueuler, là. Mais là, elle ne disait rien, parce qu'elle savait que c'était purement professionnel, hein. Voilà. Et voilà, c'est une petite anecdote, mais qui est vraie en plus. Hein. Je raconte pas de conneries quand même. Hein, moi. Alors tiens, ben, on parlait d'Émile Goudot tout à l'heure. Hein. Alors, j'ai eu la chance, un copain m'a offert un vieux bouquin des poèmes d'Émile Goudot, en remerciement de je sais pas quoi. Et il a fait un poème qui s'appelle « Le vin de vérité », figurez-vous. Ouais, « Le vin de vérité ». Et quoi, les anciens Grecs, pourtant joyeux et braves, logeaient la vérité toute nue en un puits. Dieu buveur de nectar restait exempt d'ennui. On sait que votre sœur habite dans les caves. Nos pères, les Latins, nous ont dit par trois mots que l'on devrait inscrire en or sur les murailles. In vino veritas. C'est parmi les futailles. Connaît la vérité, Vénus des rouges flots. In vino veritas, or, apportez mon verre, loin des puits imposteurs, et je dégusterai philosophiquement le bon, le pur, le vrai, me consolant ainsi de toute mente sur terre. Car le buveur adopte un franc-parler joyeux. Dans la société des lucides amphores, la vérité qui souffle un tas de métaphores qui lui donne le droit de tutoyer les dieux. Bientôt, loin des puits sourds, il court vers les étoiles, bousculant Mars, Vénus, Neptune, Jupiter. Seigneurial, il vogue et roule dans l'éther, ayant, comme on dit, quelques vents dans l'étoile. C'est marrant parce que ça, c'est des trucs qu'on utilise encore. Hein. Or, afin de partir de notre monde froid, vers le ciel où le vrai tout chaud se manifeste, le buveur, sans fatigue, use d'un simple geste. Il prend son verre plein, ferme les yeux et boit. C'est donc, ô vendangeur, faire œuvre de pie et juste que de cueillir là-bas les grappes du soleil, de presser en la cuve un laitage vermeil, puis d'enclore le vin dans la futaille auguste. La tonne dans la cave obscure abritera contre l'eau des mouilleurs abjects le pourpre, la pourpre, pardon, exquise, j'ai dit. On fermera la porte ainsi qu'un buis d'église et l'âne vérité dans le vin descendra. C'est pas beau, ça, hein? Mais venant du Mingoulot, c'est pas étonnant, parce que hydropathe, vous savez, c'est les gens qui sont malades avec de l'eau. Alors vous pensez bien qu'il n'allait pas faire un poème sur l'eau, hein? C'est évident, hein? Comme moi, d'ailleurs, j'ai jamais fait un poème sur l'eau, puisque je suis un hydropathe aussi, hein? J'espère que vous savez que hydropathène, hein, c'était une valse qui préconisait de ne pas boire d'eau. Ouais. Et c'est pour ça qu'il appelait son club comme ça, hydropathe. Parce qu'il savait qu'on était malade avec de l'eau quand on était hydropathe. Voilà, hein? Ce qui fait qu'il a fait plein d'adeptes, même à Périgueux. On est une vingtaine à boire, à ne pas boire d'eau, oui. Bon, sauf quand on a des médicaments, on peut pas boire prendre des médicaments avec du vin, hein, ou de l'alcool, non, c'est interdit. Hein. Puis c'est pas sûr que ça soit aussi efficace qu'avec de l'eau. Bon, allez. Alors là-dessus, si on allait voir Moustaki, figurez-vous, il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu, lui, hein, et en plus il dit le métèque.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Ça, c'est un vrai métèque. Un peu comme moi. Ouais. Je me considère aussi un peu comme un métèque. Alors, un métèque, c'est quand même quelqu'un qui a des origines autres qu'européennes. Mais bon, c'est pas pour ça que je serais pas un métèque, moi, même si je suis né à Bruyères-Artois, en plein dans un tas de charbon. Hein, bon. Alors là, j'ai un livre qui m'a été offert par Jean-Claude Allard, qui est aussi un hydropathe. Et alors, il a écrit des poèmes sur les gens, sur les gens qu'il a aimés. Et là, il a écrit un poème qui s'appelle « Le visionnaire ». Et qui est dédié à Bernard Cherba. Bernard Cherba, c'était un pianiste-compositeur qui habitait Périgueux. Il ne jouait que ses morceaux à lui, sauf quand il... parce qu'il était prof de piano, bien sûr. Ma femme prenait des cours chez lui à l'époque. Et là, il jouait quand même les morceaux qu'il voulait faire apprendre à ses élèves, bien sûr. Et il a appris les nocturnes de Chopin à ma femme, qui les jouait à merveille. Alors, le visionnaire. Alors que dans les rues de Kiev s'évade l'odeur pesante de la mort, ceux déjà meurtris à qui la vie s'est arrêtée, là, brusquement, pour avoir marché avec confiance pour survivre, sans se douter que la barbarie rôdait et allait s'abattre sur leur corps à vie. Mais madame, la guerre, ce n'est pas cela. Ce que nous découvrons, c'est de l'extermination, un génocide. Et à cet instant, comme dans d'autres, mais là particulièrement, je pense à mon frérot Bernard Cherba, le compositeur pianiste, à qui l'on peut lire au verso de son 33 tours, Âme de l'Est, disque dédié à l'Ukraine. Cette pièce à tension qui ne trouve de repos que dans l'accord final et comme un long cri de détresse, celui de millions d'hommes, de femmes et d'enfants morts de faim, victimes du génocide perpétué en Ukraine durant les années 1932 et 1933. Et c'est pas d'aujourd'hui non plus. Yunga, Ukraine, romance ukrainienne, cœur orthodoxe cosaque. Ces quatre pièces, extraites de la suite, Âme de l'Est, illustrent quelques-unes des caractéristiques du tempérament ukrainien. Nostalgie, exubérance, mysticisme et impétuosité. Vision, Dieu envoyant ses apôtres baptiser l'Ukraine en 1989. Opéra planistique en 16 tableaux où l'on trouve l'entrée de Cyril et méthode de Kiev, les armées de Kiev défilant devant Saint-Vladimir. Alors Vladimir Poutine, hein, vous voyez, là ça la fout mal. Hein. Bon, enfin, c'est une petite aparté. Mon cher Nanar, parce qu'on l'appelait Nanar, Bernard, moi le premier, défilant certes pas devant le Vladimir actuel, le crime de guerre, le criminel de guerre, le nazi du Kremlin, malheureusement l'histoire se répète. Mon frérot, tu resteras également visionnaire. Pour en savoir plus, le compositeur pianiste Bernard Cherba est né à Paris en 1964. Il est le descendant d'une très ancienne famille de Galicie, dont l'origine remonte au XIXe siècle. Fort de l'héritage culturel qu'il a légué ses parents, Bernard Cherba inscrit son œuvre dans la continuité des traditions culturelles slaves, tout en développant sa propre identité musicale. Ses compositions empruntent d'une émotion intense, manifeste un lyrisme émouvant, une grande puissance d'expression. Je conclus par ce jeu de mollets, parmi tant d'autres, celui qui t'a souvent fait sourire, connaissant comme nombre d'amis tes nombreuses qualités, tu resteras un slave honnête. Bernard Cherba nous a quittés à Périgueux le 29 mai 2015. En hommage à l'homme et au compositeur pianiste, une plaque est apposée aux 10 rues de la Sagesse à Périgueux, dont j'étais aussi moi-même à l'inauguration, puisque c'était un de mes meilleurs copains. Hein, voilà. Bon, à part ça, tout va bien. Bon. Hein, alors, bon, on n'est pas loin du compte, hein, je crois. Hein, et il ne reste pas grand-chose, je n'ai même pas le temps de vous lire un poème. Hein. Ah non. Alors, Jaco, je vais te demander, exceptionnellement à midi, quand je vais venir te voir, fais-moi un kebab belge. Hein ? Tu me fais un kebab belge ? Tu sais ce que c'est qu'un kebab belge ? Bon, je vais pas te le dire. Je t'ai déjà donné la recette. Quoi ? Tu l'as oublié ? Oh non, arrête. Eh ben, t'as qu'à aller au kebab d'à côté. Là, ils en font des kebabs belges. Bon. Hein. T'as pas compris qu'un kebab belge, c'est avec des frites ? Ah non ? Et pas qu'une seule fois, hein ? Bon, je vais être obligé de vous quitter. Il me reste beaucoup. Non, j'ai plus rien. J'ai plus rien à vous donner. Une minute ? Ah, une minute encore ! Eh, dis donc, Jaco. Fais gaffe, hein, parce que j'ai rencontré une autre gonzesse, figure-toi. Ouais. Alors, t'as intérêt à bien te tenir, sinon je te change contre elle. Hein ? Parce que moi, j'aime bien, hein, j'aime bien changer comme ça de temps en temps. Mais t'inquiète pas, c'est pas de l'amour, c'est simplement du copinage. Bon, allez, bon, sois pas triste. Hein. Allez, là-dessus, je te fais un gros bisou. Et puis à toutes les autres femmes aussi, et puis les messieurs, et puis les petits aussi. Parce qu'ils sont en vacances scolaires, les petits. Et j'espère que la prochaine fois, je vous amènerai mon petit-fils pour vous lire des poèmes pour les enfants. Mais aujourd'hui, il est resté au lit parce qu'il avait dit qu'il a mal à la tête. Mais c'était un prétexte. C'était un prétexte, il l'a fait exprès, il ne voulait pas venir. Allez, je vous embrasse.